On va commencer par s'arrêter sur deux choses. D'abord, verset 2, les femmes qui accompagnent Jésus, parce que le fait qu'un maître soit entouré de disciples, c'est normal, c'est même l'inverse qui serait étonnant. En revanche, qu'un maître soit entouré de femmes, ça c'est un fait exceptionnel. Parce que le maître, le rabbi, s'entourait de disciples hommes. Or, là, il est fait mention explicitement de trois femmes, et donc c'est-à-dire qu'il y a une importance à cela. On est au-delà du fait que les convenances ne permettent pas ça normalement. Et donc, l'idée, c'est bien de montrer que ces femmes, Marie, appelée Madeleine, Jeanne, la femme de Cusa, et puis Suzanne, et c'est écrit beaucoup d'autres, elles ont un rôle important dans la communauté des disciples, et on voit que dans ce rôle, il y a notamment le fait qu'elles prennent sur leurs ressources. Donc ça veut dire qu'elles font vivre les autres, elles ne sont pas là juste pour suivre, elles font partie intégrante du groupe, et elles permettent la vie du groupe. Et on voit que, en quelques versets, Luc insiste dessus, donc ça a son importance. Ensuite, on a déjà reparlé on avait défini la parabole déjà hein, une fois, puis on a parlé de parabole, donc je ne sais pas s'il y a besoin de le redéfinir, voilà. En deux mots, hein, c'est juste une manière propre à Jésus de révéler aux hommes une part du mystère sans toutefois lever le voile. Et on voit bien que c'est ce qui se passe. Là, c'est important. Enfin, je me dis que c'est important de redire ça un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il va faire une différence, Jésus, entre ses disciples et les autres. Donc pourquoi est-ce qu'il fait une différence entre ses disciples et les autres? Ben, c'est parce qu'il y a une question de voile qui est à lever, qui n'est pas complètement levé, mais il y a ceux qui sont prêts à ce qu'on lève un peu le voile et ceux qui ne sont pas prêts. Et ce sur quoi je veux revenir, c'est surtout les frères de Jésus, évidemment. Il y a un peu quelque chose de croustillant, là. Verset 19, la mère et les frères de Jésus vont le trouver. Et encore ici, on n'a pas de prénoms qui nous sont donnés. Donc on va faire un petit peu de grec. Ici, le terme utilisé, c'est adelphos. Et on voit bien qu'il y a des commentateurs qui disent Jésus a des frères issus de sa mère et de son père, parce que adelphos, ça définit le frère, c'est vrai. C'est vrai en grec classique. Mais là, on n'est pas en grec classique. Là, on est dans un grec qui est le grec koiné. Le grec koiné, c'est un grec qui a été sémitisé. C'est-à-dire que au grec, ont été enlevés certains mots et d'autres sont nés. Pourquoi est-ce que certains ont été enlevés? Parce qu'ils ne trouvaient pas de correspondance en hébreu ou en araméen. Et donc, ça a créé finalement de nouvelles définitions. C'est comme ça dans toutes les cultures, en fait. Hein. Une langue évolue avec la culture. Il suffit de ne pas aller très loin, hein. Il suffit d'aller en Belgique ou dans la Suisse francophone ou au Canada, au Québec, là. On voit bien qu'il y a des mots qui n'auront pas le même sens, la même définition, parce que ça évolue avec la culture. Et donc là, c'est ce qui se passe notamment avec le mot frère. Parce que les commentateurs vont dire que ça ne peut pas être le cousin, comme on dit habituellement, parce qu'en grec classique, c'est anepsios, le terme qui désigne le cousin. Oui, sauf qu'en fait, en hébreu et en araméen, le mot cousin n'existe pas. Le mot frère, à proprement parler, n'existe pas non plus. C'est un mot qui est ar. Je ne sais pas comment on l'écrirait, H-A-R, ar. Et donc ce mot-là va désigner à la fois le frère de sang, mais aussi le cousin, le neveu, le membre du clan, le compatriote et l'israélite. Donc on voit qu'entre le frère de sang et l'israélite, il y a quelque chose qui est très étendu. Sauf que ça, c'est en hébreu et en araméen. Et l'évangile, lui, est écrit en grec, dans ce grec qu'on appelle donc le grec koiné. Et donc, le mot anepsios, cousin, n'apparaît qu'une seule fois de tout le Nouveau Testament, sous la plume de Paul. Sinon, c'est toujours le mot grec adelphos qui apparaît et qui va donc définir non pas l'ensemble de ar, c'est-à-dire il ne va pas définir désormais le membre d'un clan ou le compatriote ou l'israélite, mais en revanche, il va pouvoir définir tant effectivement le frère de sang que le cousin, ou du moins qu'un membre de la famille proche. Alors après, on pourrait rentrer dans des explications plus avancées. Ici, il n'y a pas de prénoms qui sont cités, mais on voit que parmi les prénoms qui sont cités parmi les frères de Jésus, certains ensuite, on les retrouve exactement les mêmes qui sont les fils de Marie, mais c'est l'autre Marie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de confusion, mais dans notre esprit, si, ou du moins dans l'esprit de certains commentateurs. Mais il est clair, en tout cas dans les évangiles, que le terme adelphos ne définit pas forcément le frère de sang, et que parmi les noms qui sont cités dans les frères de Jésus, on en retrouve certains plus tard qui sont les fils d'une autre Marie. Voilà pour ce petit point-là. Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, donc tant qu'à faire, avoir les idées au clair. Oui.
En même temps, je pense sur la croix, Jésus a donné sa mère à Jean.
À Jean, oui.
S'il avait eu un frère, quand même, je pense qu'il lui dit, il aurait dit à son frère, tu vas t'occuper de maman.
Bah, de fait. Mais alors, justement, on parlait de la veuve. Le fait que Jésus confie sa mère à Jean va dans le sens que Joseph est décédé. Et donc que Marie ne peut plus compter que sur son fils. Or, son fils est en train de mourir. Et cette délicatesse de Jésus va effectivement jusqu'à confier sa mère à un des disciples. Et ça nous va nous faire aussi comprendre, quand Jésus confie sa mère à Jean, cette phrase, qui est ma mère, qui sont mes frères? Celui qui écoute la parole de Dieu. Jean, c'est celui qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, etc. Donc, bien sûr, très juste. Merci. Alors maintenant, une petite proposition de lecture, il y en aura deux. Une sur la communauté des disciples, comme on en a parlé un petit peu dans notre premier verset, et une sur la parabole du semeur. Alors, la communauté des disciples. On voit dans les premiers versets que dans la même dynamique que l'appel des 12, qu'on a déjà lu, hein, Jésus s'entoure de disciples qui ont des profils variés. Et c'est comme ça qu'on voit effectivement, c'est décrit à travers les différentes... les trois femmes, en tout cas, qui sont citées, ont des profils différents. Donc, il va s'entourer de profils variés. Et c'est sa prédication, alliée à ses œuvres, qui va faire de lui le médecin des corps et des âmes, hein, que vont suivre les hommes, les femmes, les deux ensemble, tant les exclus de la société que ceux qui sont bien introduits. Et pour dire ça, hein, je m'appuie sur le texte. Hein, au verset 2, il y a Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons et qui a été guérie de maladie, donc probablement qu'elle a été exclue de la société. Et puis, on a juste après Jeanne, la femme de Cusa, qui est l'intendant d'Hérode. On ne peut pas être plus introduit qu'être auprès d'Hérode. Donc, on voit bien que tout ce monde-là va venir autour de Jésus. Jésus va créer l'unité, comment? On l'a dit, par sa prédication, par ses œuvres, c'est-à-dire par l'annonce de la bonne nouvelle. Et paradoxalement, tout en créant l'unité, il va aussi provoquer la division. Non pas au sein de son groupe, mais pour ceux qui sont en dehors du groupe. Alors maintenant, la parabole du semeur. Même si, bien sûr, commenter la parabole du semeur qui est elle-même commentée par Jésus, ça semble superflu, on est d'accord. Mais on peut tout de même souligner qu'il s'agit d'une réflexion de fond dans ce que dit Jésus sur l'articulation entre le don de la parole de Dieu et la réception de cette parole par les hommes. Il y a donc une dialectique qui se dégage, hein, du discours de Jésus. D'un côté, il y a les disciples qui sont prêts à entendre l'explication de la parabole, à connaître les mystères du royaume, et de l'autre côté, il y a ceux qui ne sont pas encore prêts, ceux qui doivent se contenter de la simple parabole. Donc il y a une division quand même. D'un côté, il y a ceux chez qui la parole va porter du fruit. Et de l'autre, il y a ceux chez qui la parole ne pourra pas prendre racine, ne pourra pas croître. D'un côté, il y a la mère et les frères de Jésus. Ah, on est sorti de la parabole, mais ça va avec. Donc ce sont ceux qui écoutent et qui appliquent la parole. Et de l'autre côté, il y a ceux qui écoutent, mais sans entendre. Et finalement, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, quand on lit « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» à la suite de cette parabole-là, parce que les versets 20 et 21, ils sont un peu comme une clé pour comprendre Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de traitement qui est opérée par Jésus entre ses disciples et les autres? Pourquoi est-ce que certains ont le droit d'avoir une explication de la parabole et pas les autres? Eh bien parce que là où celui qui n'est pas disciple entend le mot frère au sens littéral, le disciple, lui, va l'entendre au sens spirituel. Et donc le disciple est prêt à entendre toute la teneur spirituelle de la parabole. Parce qu'il a déjà, en suivant le Christ, commencé à lever le voile. Donc Jésus va l'aider à avancer là où il en est rendu. Donc Jésus prône l'équité. Il prend chacun là où il est, et il aide à avancer comme il est.